Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 11 mars 1987. distance inoubliée. Il me semble bien. C'est cela qui m'est apparu progressivement quand on est attentif un peu à ce développement de notre pensée occidentale. C'est évident que pour vous, c'est pas commode, topic historique, puisque vous commencez. Mais ce que je veux vous faire comprendre, que c'est indispensable.
C'est pour ça que les stoïciens représentent un tournant très curieux. Elle est peu connue, la philosophie stoïcienne, c'est vrai, parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Mais elle est très intéressante pour ça, parce qu'elle représente un grand tournant. Il y a eu ce renversement des interrogations. Et le comment est devenu premier. Et le stoïcisme, dans notre philosophie occidentale, a été continué par les théologiens. Les théologiens, ils ont la foi, du moins s'ils sont théologiens. Ils ont la foi. Ayant la foi, on a un jugement d'existence. Le croyant doit être un réaliste. Autrement, il n'est pas un croyant. Le croyant qui vit uniquement dans le vécu n'est plus un croyant. C'est ça qu'il faut essayer de saisir, la position des théologiens. Parce que c'est le drame d'aujourd'hui. Le croyant, c'est quelqu'un qui vit dans le réalisme même de Dieu. Peut pas y avoir un réalisme plus grand que Dieu. Mais le croyant, au point de vue de la pensée, sait très bien que ce qui est, je ne peux pas l'atteindre. Donc, la foi fait le deuil de ce qui est. C'est le propre du croyant. Le croyant accepte d'être un aveugle pour Dieu. Il a la canne de l'aveugle, le croyant. Il accepte de ne pas connaître ce qui est. Je ne peux pas savoir ce qui est de Dieu. Mais je sais qu'il existe. Et je ne peux chercher que le comment. Et même saint Thomas dit, le comment, le quomodo non sit, c'est encore mieux. Comment il n'est pas. C'est le comment. C'est très bien le comment quand j'ai le jugement d'existence. Donc, quand la foi est en première, me donne le jugement d'existence. Mais le jour où je ne regarde plus la foi est mise entre parenthèses. Je passe du théologien au philosophe sans redécouvrir le jugement d'existence. La foi est mise entre parenthèses. Il ne reste plus que le comment. Je crois que ça, c'est le drame de toute notre philosophie occidentale, dont nous assistons aujourd'hui au bourbier. Faut bien le dire. Quand vous vous mettez à l'école de Heidegger, de Lévinas, de Husserl, votre pensée est complètement perdue. Et si vous avez la foi, vous risquez de la perdre. C'est ce que je disais à certains professeurs de Lausanne qui aimaient beaucoup Merleau-Ponty et qui étaient croyants. Je dis, le drame pour moi d'un Merleau-Ponty, c'est que je vois que les étudiants de Merleau-Ponty, chrétiens au point de départ, au bout de 4 ans de philosophie, ne sont plus croyants. On en a tous rencontré des quantités comme ça. Comment ça se fait? La philosophie qui devrait nous rendre sages fait qu'on quitte la foi. Il y a là quand même quelque chose qui est significatif. Oui, vous voyez la même chose chez des quantités d'étudiants de médecine. Comment se fait-il que l'étude qui devrait rendre plus intelligent des gens qui deviennent incipiens, je le dis en latin parce que c'est mieux, ils perdent la foi, ils ne croient plus en Dieu, ils deviennent des positivistes, ils sont dans le comment, et il n'y a plus que le comment, et il n'y a plus aucun éveil de l'intelligence. L'intelligence est complètement inhibée. C'est un fait, ça, il faut regarder autour de soi. Il y a un certain réveil actuellement. Chez les jeunes, il ne faut pas le manquer ce réveil. Il faut le prendre au bon moment. Mais il faut regarder ça, il faut le voir, il faut le constater. et c'est ça qui m'intéresse. Parce que si je ne connais pas le mal, je ne peux pas l'aider. C'est impossible. Il faut que je connaisse le mal de notre philosophie d'aujourd'hui. Alors vous comprenez, personnellement, la topique sur la personne est particulièrement révélatrice. Si la personne, c'est vraiment la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter, c'est donc là où je vais trouver le lieu de la bataille. Ce n'est pas l'âme, on n'en parle plus. Ce n'est plus l'être, on n'en parle plus. Dieu sans l'être, on arrive à écrire des livres comme ça. Pour un croyant, c'est quand même... Il faut quand même quelque chose qui ne marche plus pour pouvoir refuser la grande affirmation « Je suis ». Il faut sentir ces choses-là. Parce que si on ne les sent pas, évidemment, on passe complètement à côté de notre monde d'aujourd'hui. Alors, on restera croyant. Oui. Mais on sera incapable de dialoguer avec quelqu'un qui n'a plus la foi. Quelqu'un d'intelligent qui n'a plus la foi. C'est très vrai. On peut attendre que l'Esprit Saint le réveille. Et le Saint-Esprit le fait heureusement de temps en temps. Il y a des convertis en quantité aujourd'hui. Mais nous devons coopérer à l'Esprit Saint. Puisque je vous ai déjà dit, l'Esprit Saint convertit notre cœur, mais ne convertit pas notre intelligence. La plupart du temps, c'est très rare que l'Esprit Saint convertisse l'intelligence. Ordinairement, il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Donc, nous avons un devoir. Je crois que c'est le devoir le plus élémentaire, le plus fondamental et donc le plus élémentaire, de convertir notre intelligence. Et c'est difficile, c'est très difficile, ça demande des efforts. Le but de ce cours sur la personne, c'est cela, essayer de toucher le mal. Alors, je reprends. La théologie qui se laïcise, notre philosophie occidentale, est une philosophie qui s'est appuyée sur les théologiens et qui s'est laïcisée progressivement. Première laïcisation, Descartes. Et Descartes y était carrément. Seconde laïcisation, Kant. Alors Kant, il a eu peur. Kant, il a une frousse intense. Il a eu peur de perdre la foi. Je comprends. Ça, Kant, c'est un froussard. Au point de vue de l'intelligence. Alors, vous voyez, le grand système, c'est le noumen, je ne le connais pas. C'est une frousse intense. Il n'a jamais regardé le réel. Alors, il a tourné le dos. Et puis, il s'est mis dans les formes a priori. Et regardez toujours le ciel, on ne regardera jamais la terre. C'est un système moyen. Regardez le petit ciel, les formes a priori. Je regarde jamais, jamais, le point de vue de la terre. C'est très curieux, Kant. Il veut rester croyant. C'est touchant. C'est très touchant. Le petit bourgeois qui veut garder la foi. Alors il ferme ses volets. Il y a un air contaminé. Alors on veut garder la foi. néo-hégélianisme de Brigitte, c'est la pureté de l'intelligence. Faut jamais toucher le réel, parce que c'est pas très pur. Le réel, l'existence, c'est pas très pur. C'est, ça a toujours une odeur de corruptibilité. C'est vrai, ça a toujours une odeur de corruptibilité. Le réel matériel, c'est corruptible. Le réel physique, c'est corruptible. C'est terriblement limité. On comprend très bien la nausée. C'est pas agréable d'être toujours avec des êtres corruptibles. On sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont pas encore morts. Ou bien, ils sont tout proches de la mort. C'est pas très drôle de vivre avec des momies. C'est ça, cette espèce d'horreur du jugement d'existence qui vous met en contact avec le corruptible. C'est évident. Il faut passer à travers le corruptible pour atteindre l'être. C'est purgatoire. Il faut accepter le purgatoire. On l'accepte plus aujourd'hui, le purgatoire. On veut bien la vision béatifique, mais pas le purgatoire. Alors, le purgatoire, c'est ça, c'est de passer par la corruptibilité, c'est de passer par la contingence pour atteindre l'être. Alors, on aime mieux couper tout de suite et puis rester dans l'intelligibilité. Or, si on reste dans l'intelligibilité, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus que la description. Et pourtant, on sent bien. Parce qu'ils sont pas bêtes, ces gens-là. Ils sont quand même des gens qui réfléchissent. Husserl a beaucoup réfléchi. Les mathématiciens sont des gens qui ont une certaine noblesse de l'intelligence. Ça. Comme l'ontologiste, ils ont une noblesse de l'intelligence. Et cette noblesse de l'intelligence fait qu'ils essaient de découvrir le noyau de la personne humaine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a dans la personne humaine quelque chose d'au-delà du corruptible? Vous voyez, la nostalgie des Grecs, découvrir le divin, découvrir quelque chose qui est au-delà du corruptible, c'est ça la personne. Qu'est-ce qui nous intéresse de découvrir la personne? C'est que quand je suis avec les animaux, je suis toujours dans le purgatoire, le corruptible. Même si vous aimez beaucoup un chien, ben c'est quand même le corruptible. Le chien vous répondra en aboyant. Ça peut vous contenter affectivement. Parce qu'il a des yeux humides. Alors c'est merveilleux. Il est touchant, ça peut être. C'est extraordinairement touchant. Il pleure tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le chien pleure, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est le corruptible. Alors, on veut quitter ce corruptible pour découvrir la personne humaine. Une personne humaine, ça a une signification. On comprend très bien cette espèce de nostalgie de chercher la personne humaine. Mais si vous n'avez plus la possibilité de la découvrir, vous la découvrez à partir du vécu. Je comprends très bien cette espèce de difficulté terrible, et c'est ça qui est touchant. Je crois que Husserl, il faut le lire avec cette attitude-là de dire. Il sent qu'il y a un absolu qu'il faut découvrir. Il n'arrive pas à le découvrir. Il tourne autour pour un, vous voyez bien. Alors quand on prend ses formules, qu'on essaie de les comprendre et comprendre ce qu'il y a derrière, on se dit, mais je ne pourrais pas dire ça de façon plus simple. C'est vrai, on a toujours l'impression qu'il pourrait dire ça de façon tellement plus simple. Pour des quantités de choses, c'est très très compliqué la fémologie. Et si vous parlez un langage simple, en face d'un fumologue, il dit, vous êtes naïf. Moi, j'aime mieux opter pour la naïveté et découvrir la finalité et la réalité que d'être dans cette complexité. Il faut lire des passages de Husserl. Il faut lire de Lévinas. Il faut les lire pour comprendre leur complexité. vous êtes séduit. Phénomène de la séduction. Qu'est-ce qui supprime la séduction? C'est de toucher la réalité qui est bonne. Et c'est vrai que c'est terriblement séduisant pour des intelligences qui ont perdu le sens du réel. Et c'est ça, je crois, qu'on doit essayer de découvrir en Husserl, vous voyez. Si on avait le temps, c'est très vrai, on est obligé d'aller assez vite. Mais si on avait le temps, on essaierait de comprendre certaines de ces formules qui sont compliquées, invraisemblables. Quand vraiment vous essayez de comprendre ce que ça représente exactement, cette attitude de dire qu'on veut saisir le vécu, mais encore, on y va. Qui ont beaucoup de peine de rejoindre le réel, nous pouvons le mieux saisir le baromètre de la fatigue intellectuelle du monde d'aujourd'hui. À la place du principe, c'est la condition sine qua non. La condition sine qua non, voyez, il y a des couches, il y a le moi et l'ego. Évidemment, le moi se traduit dans la langue vulgaire. L'ego, c'est le latin. C'est curieux, hein? C'est très curieux de passer du moi à l'ego. Jusque maintenant, moi et l'ego, c'était la même chose. On éprouve le besoin, voyez, d'un terme archaïque. C'est très étonnant, ces choses-là. Je trouve ça très curieux et c'est très intéressant. Si on est dans une méthode de réflexion, on est toujours dans une méthode un peu archéologique. Donc, le moi qui est dans le vécu, je ne peux pas vivre sans le moi. Dès que vous êtes dans le vécu, vous êtes dans le moi. Et comme la personne n'est pas le vécu, c'est pas la source non plus. Mais c'est la condition sine qua non du vécu. Alors vous prenez l'ego. L'ego personne. En adjoignant au moi-pôle. Le moi-pôle, c'est l'ego. Ce sans quoi il ne saurait exister concrètement. Il ne saurait notamment être un moi autrement que dans le courant multiforme de sa vie intentionnelle et des objets visés par elle. Tout ça est compréhensible, mais qu'est-ce qu'on cherche? La condition sine qua non de tout ce vécu. Et on ne saisit pas quelque chose qui est extrinsèque, mais qui est immanent à ce vécu et qui demeure. Alors c'est très curieux, vous voyez. Nous retrouvons toujours cette idée première de la substance, la déesse qui demeure. C'est ce que Platon dit dans le Cratyle. Vous savez, quand il voit Ousia Estia, c'est la déesse qui... Alors, qu'est-ce que c'est que la permanence comparativement à la substance? C'est la propriété de la substance. Qu'est-ce qui demeure? Ce sont les propriétés, les principes et les causes. C'est un naufrage complet. C'est le déluge. Qu'est-ce qui reste? Des petites brindilles. Des propriétés. Alors, la personne devient ce qui demeure. Le permanent. Ce sans quoi le vécu n'a plus de sens. Mais il y a une certaine intelligibilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est plus quelque chose de radical. C'est une propriété. Et je ne peux pas dépasser ça. Alors, je réponds à la question posée, voyez par là. Il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus que la description, parce qu'on est au niveau des propriétés. Et c'est vrai, je suis au niveau des propriétés. Je fais la même analyse quand je suis avec Heidegger. Je lis honnêtement Heidegger. Il faut faire ça. Chaque fois qu'on aborde un auteur, on doit le lire honnêtement. Il a passé toute sa vie là-dessus. Donc, il faut quand même le lire honnêtement. Et puis, l'ayant lu honnêtement, j'essaie de comprendre. Puisque je dois me faire disciple. Quand je lis quelqu'un, je me mets disciple de cette personne. Je me suis dans un labyrinthe. Quelquefois, je ne vois plus rien du tout. Je le suis. qui est très difficile bien à comprendre. C'est curieux. Je suis persuadé qu'en Lucerne, Design ne pense absolument pas à Platon. C'est ça que je trouve désastreux chez ces philosophes. Il leur manque une culture philosophique. Ils s'aperçoivent pas que ce qu'ils disent a déjà été dit. C'est ennuyeux. Un philosophe devrait avoir cette loyauté de connaître ce que les autres philosophes ont dit sur le sujet avant lui. Et s'il doit dire quelque chose de nouveau, il sait qu'il dit quelque chose de nouveau. Aristote sait qu'il dit quelque chose de nouveau. C'est plus facile pour lui. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a... Il y a tous les théologiens, il y a tout ce... Alors c'est très difficile de savoir est-ce que je dis vraiment quelque chose de nouveau. Bon, au fond, c'est pas ça que je cherche. Je cherche à dire quelque chose de vrai. Si ça a été dit avant, tant mieux. Parce que je me retrouve avec quelqu'un. Donc je suis pas isolé. C'est pour ça que j'aime tellement Aristote. Parce que souvent, on se retrouve avec lui. C'est agréable quand même, c'est pas un imbécile. C'est quand même quelqu'un qui a surnagé pendant un certain temps. Je sais bien que le grand déluge moderne le met dans le bourbier. Mais quand même, ce grand déluge moderne, peut-être qu'après les corbeaux, la petite colombe va pouvoir passer et on va pouvoir montrer qu'il y a encore quelque chose qui reste de l'aristotélisme. C'est pas si bête. Il y a quelque chose qui demeure. C'est ça qui est intéressant, c'est de retrouver que de fait, ce qu'on cherche, il y a quelque chose qui demeure. On a beau chasser la substance, la propriété de la substance demeure. Et quand ils disent ça, ils ne s'aperçoivent pas cela. Alors, on va regarder Maritain, c'est beaucoup plus facile.